VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30, temps universel, le monde aujourd'hui, édition du mardi 17 octobre 2017. Morgane Diayek en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, le Togo sous tension depuis hier suite à l'interpellation d'un imam proche du Parti national panafricain. Au Kenya, l'opposition a suspendu ses manifestations. En Côte d'Ivoire, Abidjan aura son métro, peut-être dans 4 ans, d'après le Premier ministre ivoirien. Le groupe État islamique a perdu Raqqa, son principal bastion en Syrie. Et en Afghanistan, 2 attaques ont fait au moins 71 morts. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Arzouma Compaoré pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Le Togo est sous tension depuis hier soir. C'est l'interpellation d'un imam proche de leader du Parti national panafricain, PNP, qui a mis le feu à Sokodé, dans le centre du pays, avant de s'embraser à Lomé. Le point avec notre correspondante, Kay Lawson.
Le Togo a connu une nuit mouvementée entre lundi et mardi. À l'origine des incidents qui se sont soldés par 3 morts, une vingtaine de blessés et une dizaine de bâtiments brûlés, l'interpellation musclée de Alassane Mohamed Diobo à Sokodé, à plus de 330 km au nord de Lomé. Imam de son état et un des conseillers du Hachadam Tiki, président du Parti national panafricain PNP, il est reproché à Alassane Mohamed Diobo de tenir des propos incitatifs à la violence, au meurtre et à la sédition. Son interpellation s'est faite sur réquisition du parquet, informe le gouvernement dans un communiqué. Informés de l'arrestation de M. Diobo, des jeunes sont descendus dans la rue pour réclamer sa libération. Ils s'en sont pris aux biens publics et privés, dénoncent le pouvoir de Lomé dans son test. Sokodé n'a pas été la seule ville à s'insurger contre l'arrestation de cet imam qui serait déféré actuellement à la prison civile de Kara. Bafilo, Palimé et Lomé ont aussi connu des turbulences. À Lomé, dans la banlieue d'Agouet, la nuit était rythmée d'incendies, de gaz lacrymogènes et de tirs à balles blanches. Le poste douanier du terminal du Sahel et le bâtiment abritant le siège du parti PNP à Lomé ont été brûlés. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Tchad, le directeur de publication d'un hebdomadaire indépendant a été convoqué par la police à N'Djamena et placé en garde à vue. C'est ce que rapporte l'AFP. Juda Alaoudoum, directeur de publication du journal Le Visionnaire, a donc été arrêté après la parution d'un article en une consacré à une affaire de détournement présumé d'immatriculation d'avion. C'est ce qu'indiquait une source policière s'exprimant sous couvert d'anonymat. Au Nigeria, le leader séparatiste Biafré, Nnamdi Kanu, n'a pas assisté à l'ouverture de son procès, qui a donc été ajourné à Abuja. Introuvable depuis un mois, il est poursuivi pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Au Nigeria toujours, la présidence a ordonné aux forces de l'ordre de stopper la folie dans l'état du Plateau, dans le centre du pays. Plus de 20 personnes ont été tuées dans un regain de violence entre éleveurs musulmans et cultivateurs chrétiens. Hier, des éleveurs peuls nomades s'en sont pris à des cultivateurs sédentaires après de nouvelles tensions le week-end, malgré un couvre-feu. Au Kenya, l'opposition a suspendu ses manifestations pour honorer la mémoire de 3 personnes tuées par balles pendant des protestations ces derniers jours. Les précisions de John Lyndon.
En hommage aux victimes innocentes de l'État, nos manifestations resteront suspendues. Vendredi, nous honorerons la mémoire de ces victimes comme héros de la lutte pour la justice électorale, a déclaré le leader de l'opposition Raila Odinga. La coalition d'opposition NASA réclame une réforme de la commission électorale qu'elle juge incapable d'organiser un scrutin crédible le 26 octobre. Les manifestations ont été le plus souvent réprimées par la police, car elles sont interdites par le gouvernement depuis le 12 octobre, qui évoque une menace de troubles à l'ordre public. L'opposition n'a toutefois pas hésité à braver cette interdiction. Elle a manifesté même si son porte-drapeau Raila Odinga a annoncé son retrait de la course. Par ailleurs, la Cour suprême qui a invalidé la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta a clarifié aujourd'hui le rôle de la commission électorale. Elle a estimé que cette dernière doit se limiter à vérifier les exactitudes des résultats et que la correction des incohérences relève de la Cour suprême.
Mon retour sur l'attentat qui a fait plus de 270 morts ce week-end à Mogadiscio. Les partenaires internationaux de la Somalie se sont mobilisés pour envoyer de l'aide médicale d'urgence et des médecins pendant que la diaspora somalienne donne du sang pour aider le pays à mieux prendre en charge les centaines de blessés. Tanzanie, le député Tundu Lissu, ténor de l'opposition, est sorti des soins intensifs. Virulent critique du président John Magufuli, il était hospitalisé depuis plus d'un mois à Nairobi après avoir été blessé par balle. À Madagascar, l'épidémie de peste continue de se propager, notamment dans la capitale Antananarivo. La grande île compte au moins 74 morts en deux mois pour 800 cas recensés. Il faut dire que la peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement de septembre à avril. Signalons enfin qu'au Zimbabwe, les autorités ont reçu plus de 50 candidatures pour occuper le poste de bourreau en charge d'exécuter les condamnés à mort par pendaison. Le poste était resté vacant depuis une dizaine d'années.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Allez, dans le reste du monde, le groupe État islamique a perdu Raqqa, son principal bastion en Syrie, après des mois de combat avec les forces soutenues par les États-Unis. Nathalie Barge.
Les forces démocratiques syriennes ont pris le contrôle de l'hôpital et du stade, où étaient retranchés des dizaines de djihadistes étrangers à Raqqa. Hier, le rond-point d'Al-Naïm est tombé. Il servait de lieu d'exécution publique pour le groupe État islamique. La ville de Raqqa est ravagée par plus de 4 mois de combats et de bombardements aériens. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats ont fait 3250 morts, dont 270 enfants. En vertu d'un accord avec des responsables locaux et chefs tribaux, les civils pris au piège ont pu être évacués et quelques 275 djihadistes syriens et leurs familles ont été autorisés à quitter la ville. La coalition internationale avait exprimé son opposition au départ des djihadistes étrangers de Raqqa, craignant qu'ils retournent dans leur pays d'origine pour causer plus de terreur.
Les troupes gouvernementales irakiennes ont repris la quasi-totalité des champs pétroliers de la province de Kirkouk après le retrait des forces kurdes, ruinant les espoirs d'indépendance de la région autonome du Kurdistan. Depuis le début de l'opération, il y a deux jours, les convois de blindés avancent pour imposer l'autorité du pouvoir central dans cette province de l'Irak, où les combattants kurdes s'étaient installés en 2014 suite à la percée du groupe État islamique. En Afghanistan, deux attaques de plusieurs heures ont fait au moins 71 morts et 170 blessés à la frontière avec le Pakistan. Les talibans représentent cette opération comme une riposte à de récents raids américains. On fait le point avec Solange Niamoulissa.
Le général Mourad Ali Mourad, vice-ministre de l'Intérieur, a précisé qu'au moins 41 personnes, dont 20 civils, ont été tuées et près de 160 blessés à Gardez, dans le sud-est. Le complexe ciblé abrite différentes forces de police et un centre de formation. L'assaut revendiqué par les talibans a duré 5 heures et s'est terminé par la mort des 5 assaillants. Au même moment, dans la province voisine de Ghazni, 25 membres des forces de sécurité et 5 civils ont été tués et une dizaine blessés dans l'attaque du siège du district d'Andar à l'ouest des Gardez. Les deux attaques ont commencé par des explosions de véhicules piégés pour ouvrir la voie à des commandos armés. Un responsable taliban a affirmé que ces deux opérations étaient en représailles à de récentes attaques des drones américains.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés tire la sonnette d'alarme en Libye. Quelques 20 500 réfugiés et migrants sont retenus dans des centres de détention ou prisonniers de trafiquants à Sabarta, ville de l'Ouest, plateforme de départ des migrants vers l'Europe. La crise entre Madrid et les séparatistes de Catalogne, des milliers de Catalans sont descendus dans la rue aujourd'hui contre la mise en détention de deux responsables indépendantistes inculpés de sédition. Des milliers d'employés ont quitté leur poste de travail à Barcelone et dans d'autres villes pour se masser en silence dans la rue, quelques minutes, le temps de réclamer la libération des prisonniers politiques. Ces manifestations interviennent alors que Madrid a donné jusqu'à jeudi au président séparatiste catalan Carles Puigdemont pour qu'il renonce clairement à sa déclaration d'indépendance. Enfin, ici aux États-Unis, les plus fortunés se sont encore enrichis cette année, à quelques exceptions près, dont le président Donald Trump, qui a vu sa fortune fondre de quelques 600 millions de dollars, selon un nouveau classement du magazine Forbes. La fortune moyenne pour accéder à ce club très fermé est de 2 milliards de dollars cette année. Le président Trump arrive à la 248e place avec une fortune estimée à 3,1 milliards de dollars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique. Arzuma Compaoré, la Minute Éco.
D'un coût d'environ 300 millions de dollars, le nouveau port international d'Owendo près de Libreville au Gabon a été officiellement inauguré. Construit en 18 mois par le groupe singapourien Olam, sa gestion sera en partie assurée par le groupe français Bolloré. C'est une modernisation du port existant au sud-est de la capitale et son quai permet désormais d'accueillir plusieurs navires et gonfle sa capacité à 150 000 containers et 3 millions de tonnes par an selon son opérateur, le consortium Gabon Special Economic Zone. Le Zimbabwe a interdit les importations de fruits et légumes pour économiser ses devises face à l'aggravation de la crise économique. Le ministre de l'Agriculture a déclaré que le président Robert Mugabe a demandé de faire cesser les importations en vue de stopper le gaspillage de devises étrangères dont le pays a grand besoin. Les devises étrangères gaspillées pour l'importation de carottes et de raisins vont désormais être utilisées pour l'achat de plus d'engrais et de pesticides, a expliqué le ministre. Le pays a été jadis un exportateur de produits agricoles, mais l'expropriation de terres cultivées par des blancs au bénéfice de la population noire a désorganisé la production dans les années 2000. Le constructeur français Peugeot part à la reconquête de l'Afrique. Après la gloire lointaine des anciens pick-up Bâché, le constructeur a présenté à Hammamet, en Tunisie, sa dernière création appelée le pick-up. Selon Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot, cela constitue la première étape de la reconquête d'une région où la marque a perdu beaucoup de terrain face aux 4x4 et pick-up japonais de Toyota, Nissan et Suzuki. Après la Tunisie, fin septembre, le véhicule sera lancé au Maroc en octobre, puis ensuite en Afrique subsaharienne.
Un peu sur les stades, c'est les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Coupe du monde des moins de 17 ans, qualification du Mali pour les quarts de finale.
Net et sans bavure, la victoire des Aiglons qui ont laminé l'Irak en Inde où se déroule cette Coupe du Monde. Un succès 5 buts à 1. Les buteurs maliens Dramé, le doublé de Ndiaye, Konaté et Camara qui permettent aux Aiglons de se qualifier. Les Anglais de leur côté se qualifient dans la douleur au pénalty face aux Japonais 0-0 à la fin du temps réglementaire. L'Espagne qui bat la France 2-1. Même score pour l'Iran qui domine le Mexique. À suivre demain le choc africain en 8e de finale. Qui va affronter le Mali en quart? Ce sera le Ghana ou le MENA du Niger.
Le président de la CAF au Maroc.
Le malgache Armat est arrivé à Rabat pour une réunion de travail avec le président de la Fédération royale marocaine de football et le ministre marocain des sports. Armat qui revient en exclusivité ce soir sur VOA Afrique sur l'attribution du CHAN 2018 au Maroc après le retrait, vous le savez, de la compétition au Kenya.
On est à 3 mois de la compétition. On a ouvert la candidature à tous les pays africains. Il y a 2 qui ont répondu favorablement avec des garanties de leur gouvernement, le Maroc, la Guinée équatoriale. Mais après une visite d'inspection en Guinée équatoriale et une analyse sur les dossiers du Maroc, sur avis de comité d'urgence, sur avis des membres du comité exécutif, à l'unanimité, ont choisi d'organiser cette compétition au Maroc parce que nous ne voulons plus construire quoi que ce soit, mais un pays, même aujourd'hui, en termes d'infrastructure, même si on commence aujourd'hui les compétitions, il n'y a rien à toucher.
Le président de la CAF, Armat, joint ce soir à Rabat. Une interview à retrouver sur notre site voafrique.com.
La NBA reprend ses droits la nuit prochaine.
Qui pour battre Golden State? Les Warriors règnent sans partage sur la NBA et sont bien partis pour ne laisser que des miettes à la concurrence une nouvelle fois. Dans le sondage de pré-saison, 93% des dirigeants d'équipe NBA voient les Warriors conserver leur titre en juin l'année prochaine. Avec deux titres en trois saisons et une flopée de records, la franchise de la baie de San Francisco est sans surprise l'équipe à battre grâce à Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ou encore Draymond Green. Un état d'esprit irréprochable.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara doit procéder le mois prochain à la pose de la première pierre du métro à Abidjan. Cependant, la locomotive économique de la région subit les effets de la baisse des prix du cacao, dont il est le premier producteur mondial. Que faire face à la chute des prix du cacao? En exclusivité sur VOA Afrique, Idriss Fall s'est entretenu avec Amadou Gon Coulibaly, premier ministre ivoirien, pendant son récent séjour à Washington.
Cette baisse donc des prix, près de 35% sur le marché international, c'est avec beaucoup de pincements au cœur que le gouvernement et le président de la République ont dû ajuster les prix d'achat du cacao aux paysans. Nous avons également fait un effort important en abandonnant la taxe d'enregistrement qui a permis de maintenir le même prix que celui que nous avions au cours de la campagne dernière, donc de 700 francs, donc CFA, donc les kilos. Ce que nous envisageons pour ne pas continuer de subir au niveau national, nous nous lançons dans un vaste programme de transformation donc du cacao. Nous sommes aujourd'hui à un taux de 30% de transformation et nous avons l'ambition de le porter à 50% à l'horizon 2020. Et des dispositions fiscales incitatives ont été prises pour inciter donc à la transformation donc, du cacao. Mais nous considérons que le Ghana et nous, qui représentons environ 60-65% de la production de cacao au monde, nous devons nous concerter pour avoir des politiques de mise à marché coordonnées, des politiques de production coordonnées et aussi avoir donc une même politique en matière de transformation. Ce genre de mesures devraient pouvoir mettre les deux pays à l'abri de ces variations.
On parle de métro à Abidjan. Quand et combien ça va coûter et qui est-ce qui va faire ça?
Le métro, la première pierre du métro sera posée par le président de la République et son homologue français à fin novembre 2017. Les travaux devraient durer environ 4 ans. Ce métro sur une longueur de 37 km. Donc le coût du métro est estimé entre 1,2 milliard et 1,4 milliard d'euros. Les études sont encore en cours sur un certain nombre de points pour pouvoir donc finaliser tout cela.
La Côte d'Ivoire, locomotive de l'économie en Afrique de l'Ouest, c'est possible?
C'est pas que c'est possible, ça l'est d'abord. Si vous prenez notre contribution au niveau du PIB, au niveau de la sous-région, nous sommes à 40%. Nous sommes une locomotive, nous sommes sur le plan énergétique, nous avons une capacité installée donc en matière d'électricité de 2000 MW, que nous comptons passer à 4000 MW en 2020. Nous desservons en électricité plusieurs pays de la sous-région. Au plan aéroportuaire, avec la compagnie nationale que nous avons et l'aéroport d'Abidjan, nous sommes aussi un hub en matière donc de transport aérien. Nous avons aujourd'hui 2 millions de passagers donc à l'aéroport d'Abidjan et grâce à la compagnie nationale, nous rabattons des passagers de la sous-région sur Abidjan pour repartir donc ailleurs dans le monde. Où nous ramenons les gens du monde pour les faire repartir dans leurs pays respectifs. Donc la Côte d'Ivoire est un pays qui joue son rôle donc, de leadership au niveau de la région, mais ceci en bonne intelligence et de manière coordonnée dans une bonne politique d'intégration avec donc, tous ses voisins.
Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Somalie, meurtri comme jamais auparavant. L'attentat de samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Les Américains se disent prêts à renforcer leur soutien militaire aux Somaliens. Mais pourquoi la Somalie est-elle toujours le théâtre d'attaques terroristes? La tragédie complique-t-elle davantage la tâche du président Mohamed Abdoulaye Mohamed après ses 9 mois au pouvoir? La communauté internationale fait-elle assez pour sauver ce pays, surtout face au danger Shebab? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Et nous partons dans le nord du Mali, lancement des travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport de Gao. Le projet est conjointement financé par la MINUSMA et l'Allemagne grâce à sa nouvelle contribution au fonds fiduciaire en soutien à la paix et à la sécurité au Mali, qui s'élève à 12 millions d'euros. Sur place, notre correspondant Kassim Traoré.
Ce lundi, l'aéroport de Gao était en effervescence. Ce n'était pas un exercice militaire, même si les FAMA veillaient au sol. La sécurité aérienne était assurée par la MINUSMA, le tout contrôlé par Barkhane, qui a aménagé une partie de la vaste cour de l'aéroport de Gao pour le lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport de la cité des Askia. Le maître d'œuvre est Razel.
Cela consiste donc à, pour un moindre coût, mais avoir une structure efficace selon les prescriptions aéroportuaires. La lithostabilisation qui va être employée sur ce site-là et qui consiste donc à malaxer la piste actuelle. La piste principale est une longueur de 2600 mètres, largeur utile pour l'avion 45 mètres, plus 2 fois 7,50 mètres sur les côtés.
Sous la tribune installée sur les sables mouvants, des invités, mais aussi des soldats allemands dont le pays contribue au financement des travaux. Colonel James Dixis, commandant du contingent allemand, représentant l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali.
La modernisation de la piste est un investissement à long terme dont la capacité opérationnelle de l'ANAC, l'Agence d'aviation civile malienne, ainsi que dans le approvisionnement des forces maliennes et des Nations Unies. La réhabilitation de la piste principale représente un investissement à long terme dans la capacité opérationnelle de la région de Gao.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de l'aménagement a participé à la cérémonie de lancement, Mamad Saleh Anadi.
Le projet qui nous réunit a été financé et initié par la MINUSMA et la République fédérale d'Allemagne. Avec ce projet de réhabilitation de la piste de l'aéroport, la mission de la MINUSMA et ses partenaires pourra assurer le transport sécurisé des partenaires et de la population, le déploiement effectif de ces troupes et surtout l'acheminement des équipements vers les camps les plus isolés.
Lors de ce lancement des travaux, le nouveau chef de l'exécutif régional n'était pas dans sa peau. Le colonel Sidiki Samaki était à sa première cérémonie à Gao en tant que gouverneur.
Je ne suis pas du tout surpris par cet élan de solidarité que l'AMINUSMA a toujours montré à l'État malien. Et je ne suis pas surpris aussi que l'Allemagne s'associe à l'AMINUSMA pour nous réaliser cette infrastructure. Et je voudrais vous dire que cette infrastructure permettra de rentabiliser ou d'opérationnaliser la piste existante.
Vu la dégradation de la route Sévaré-Gao, les maires adjoints de la ville trouvent que la réhabilitation de la piste de l'aéroport est une bonne chose. Yacouba Maïga.
Je suis très satisfait, parce qu'on a une opportunité pour quand même relayer une certaine difficulté qu'on a par rapport à la route Gao-Sévaré, malgré son état dégradant.
La balle est désormais dans les camps de la société Razel, qui a 10 mois pour finir les travaux de la piste principale avant la deuxième phase de réhabilitation qui va concerner les salons et les autres infrastructures aéroportuaires. Kassim Traoré, de retour de Gao, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le nombre de mères et d'enfants qui meurent pendant la naissance est considérable dans le monde entier et en particulier en Afrique. Au Rwanda, le gouvernement a mis en place une plateforme Rapide SMS, une innovation qui contribuera à combler les lacunes dans les efforts pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Un reportage de Fabrice Usine, lu par Gaby Dorsil.
Le Rwanda a connu des réalisations impressionnantes dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Les progrès réalisés peuvent être attribués à une combinaison de facteurs. Rapide SMS a joué un grand rôle dans la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés. C'est ce qu'explique Jean-Baptiste Biringiro, superviseur de Rapide SMS au niveau du ministère rwandais de la Santé.
Rapide SMS est une solution efficace pour que les femmes ou les enfants qui montrent des signes urgents qui peuvent avoir des conséquences sur leur vie puissent être aidés par un agent de santé communautaire en envoyant un message rapide qui décrit les problèmes de la femme enceinte ou de l'enfant pour pouvoir intervenir.
Rapide SMS est une plateforme open source utilisant l'innovation technologique mobile. Selon Jean-Baptiste Biringuiro, cette technologie établit un pont rapide entre les agents de santé communautaires et les hôpitaux au Rwanda.
Ce système a été mis en place en 2009 avec l'aide du ministère de la Santé, avec la collaboration des partenaires, avec pour but de diminuer le décès des femmes et enfants pendant la naissance, en traquant le système de la grossesse jusqu'à 1000 jours après la naissance. Ça veut dire 2 ans.
Ce travail est important, précise Gorette Mukandaga, l'une des femmes chargées des agents de santé communautaire au centre de santé de Gihara, à Kamonyi.
Rapide SMS est utilisé par un agent de santé communautaire pour le bien de la femme enceinte jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Donc, quand un agent de la santé communautaire découvre qu'il y a une femme enceinte, il lui rend visite et lui conseille d'aller consulter un médecin pour un test de grossesse si elle est enceinte. L'ASM envoie ensuite un rapide SMS au serveur du ministère de la Santé. Quand l'agent l'informe grâce à rapide SMS, l'information est partagée à travers le pays et on est au courant du nombre de femmes enceintes, ce qui facilite leur suivi pour éviter trop de décès.
Claire Ouera, l'une des femmes qui ont bénéficié du système rapide SMS, nous parle de son expérience.
Quand un médecin te consulte, tu as confiance en lui et tout ce qu'il te dit est vrai. Tu te sens à l'aise et tu n'as pas peur. Parce qu'avant, je n'allais pas faire de test ou me faire consulter. J'avais constamment peur.
Plus besoin d'avoir peur. Le suivi médical que facilite la plateforme rapide SMS garantit une intervention plus rapide en cas d'urgence. Au Rwanda, la mortalité infantile et maternelle a été réduite de façon considérable grâce à l'utilisation de cette technologie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Irak, les troupes gouvernementales ont repris la quasi-totalité des champs pétroliers de la province de Kirkouk, un coup dur pour la région autonome du Kurdistan, et éloigne un peu plus les espoirs d'indépendance des Kurdes. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibour a joint le spécialiste de l'Irak et chercheur à l'IRIS, Karim Pagzad.
Cela veut dire que Bagdad réimpose son autorité dans la ville de Kirkuk qui n'appartient pas aux Kurdes. C'est-à-dire que géographiquement, administrativement, dans l'Irak fédéral, la ville de Kirkuk et ses champs pétroliers n'appartiennent pas à la géographie administrative du Kurdistan irakien. Mais les Kurdes, en profitant de la débandade de l'armée irakienne en 2014 face à Daesh, ils ont envoyé leur Peshmerga, leur Kurde armée, et le référendum de 25 octobre qui préludait l'indépendance de Kurdistan a été perçu par le Bagdad comme par les voisins d'Irak, comme par la communauté internationale, comme quelque chose qui ne pouvait pas être admis, une situation où l'Irak ne pouvait pas ne pas réagir.
S'agit-il d'une mesure de rétorsion selon vous?
Oui, évidemment. Évidemment, cela montre que le gouvernement irakien a décidé quand même de réagir et de prendre des mesures qui vont pénaliser énormément l'autorité autonome de Kurdistan. Parce que c'était vraiment une source de financement importante pour les Kurdes. Et donc, je pense que la situation sera vraiment empirée sur le plan économique pour les Kurdes.
Pensez-vous que l'on se dirige vers une guerre civile au Kurdistan irakien?
Non, non. Moi, je pense que la volonté d'organiser un référendum d'indépendance a été une calcul assez erroné de la part de Massoud Barzani. Massoud Barzani, qui est le chef de parti PDK, Parti démocratique du Kurdistan, qui dans la pratique dirigeait l'autorité autonome de Kurdistan. Moi, je crois que c'était une erreur. Une erreur, c'est parce qu'il est impossible pour Bagdad d'accepter, sans réagir, qu'une partie de territoire irakien proclame son indépendance. Et deuxième élément, que les pays voisins, notamment la Turquie et l'Iran, qui ont également une communauté kurde beaucoup plus nombreuse qu'en Irak, craignent la contagion sur leur territoire. Et d'ailleurs, la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis, un changement de frontières sans négociation, pour eux aussi, il n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle les Kurdes sont malheureusement seuls aujourd'hui.
Voilà, Karim Pakzad, spécialiste du Moyen-Orient et chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Voilà, c'est la fin de cette édition. José Le Morissin à la mise en onde, Morgan Guiriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui.